Bonjour à tous et bienvenue dans La Clé des songes. Comme annoncé dans l'épisode précédent, aujourd'hui on va s'intéresser aux rêves et en particulier à un type de rêve qui est le rêve lucide. Pour cet épisode, je serai accompagnée non pas d'un mais de deux experts. Pour l'aspect neurologique, Mélanie Strauss sera de nouveau avec nous. Et pour l'aspect psychologique, j'accueillerai Alexandra Jacobs. Elle est psychologue spécialisée dans le sommeil. C'est vraiment primordial d'aborder ces deux aspects pour avoir une vision plus complète du phénomène. Revenons-en au sujet du jour, le rêve lucide. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter le témoignage qui va suivre. Léna, 22 ans, nous raconte son histoire. Écoutez.
J'étais en plein dans ma période The Witcher, donc il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. C'était dans une forêt, on voit une petite fille, une petite blonde avec une robe blanche, le symbole de l'innocence on va dire, avec une petite coupelle dans les mains avec un liquide doré dedans. Et elle appelle Kayla, Kayla. Donc moi je dis ok, c'est un petit animal dont elle s'occupe, c'est mignon. Sauf que là, il y a une sorte de... Parce que moi quand je fais les rêves lucides, c'est comme un producteur de cinéma, donc il y a les plans. Vraiment c'est un film, mes rêves. Donc on voit un autre plan où il y a quelque chose qui passe très vite devant la caméra. Et là on retourne sur la petite fille, donc qui doit faire 1m20 à tout casser, qui lève les yeux sur une créature de cauchemar, on va dire ça comme ça. Une strige, c'est une sorte de cadavre décharné, un peu grisâtre, avec des grandes ailes membraneuses, pas d'yeux, des dents très pointues, qui doit faire 2 mètres. Donc là la petite fille, elle tend la coupelle vers la bestiole, donc je comprends que c'est ce machin, Kayla. Là la créature, elle sort une langue qui doit faire facile 1 mètre, qui vient laper le liquide doré, et puis qui enfonce sa langue dans la gorge de la petite fille. Ça, donc on voit le chemin de la langue dans tout son système digestif. Et là, la créature ouvre très grand sa bouche et coupe la petite fille au niveau de la taille. Et voilà. Je me suis rendu compte que c'était moi qui dirigeais le machin. C'était moi la chef de projet. Alors moi, ça m'a pas fait peur du tout parce que j'étais la productrice de ce film. Donc j'ai plus là, un zoom par ici, plus un plus gros plan là. Donc c'était... Sinon, j'aurais flippé comme pas permis.
Vous venez d'entendre un exemple de ce à quoi peut ressembler un rêve lucide. Mais de manière plus générale, de quoi s'agit-il ? Le rêve lucide, c'est tout simplement un rêve durant lequel on se rend compte qu'on est en train de rêver. On peut comprendre ce phénomène sous 2 niveaux différents. Mélanie Strauss nous explique.
Alors il y a 2 types, je dirais, de rêves lucides. Il y a le rêve lucide où simplement on prend conscience que l'on est en train de rêver. On sait que l'on est endormi, mais avec du contenu onirique, hein, de rêve. Mais on se laisse encore porter par le rêve. Et il y a une étape encore après qui est la prise de contrôle de ce qui se passe, du cours du rêve. Et dans ces cas-là, on peut décider ce qu'on veut dans ce rêve.
Le rêveur lucide n'a pas forcément conscience au préalable que ce phénomène existe. C'est le cas de Léna comme c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. C'est un événement qui peut arriver totalement aléatoirement dans la vie d'un rêveur. D'ailleurs, notre témoin, Léna, préfère de loin se laisser porter par la nature aléatoire du rêve lucide.
Non, juste j'ai pris les choses telles qu'elles venaient. Après, j'ai appris que c'était des rêves lucides. Il y avait des vidéos de youtubeurs que je regardais un peu, qui m'intéressait, mais comment ils en parlaient de manière scientifique, ça gâchait un peu la magie pour moi, donc j'ai pas envie de les provoquer, j'ai envie que ça arrive comme ça, quand ça arrive.
Pourtant, des explications scientifiques, il y en a.
Ce serait une réactivation plus importante de certaines régions cérébrales, notamment du cortex préfrontal, qui est très impliqué dans la prise de conscience de notre environnement, de ce qui se passe de façon interne, et aussi du contrôle. Voilà, c'est l'idée qu'à la fois les aires de la conscience sont plus actives à ce moment-là, alors qu'elles sont en général très ralenties, très endormies dans le sommeil. Là, elles se réactivent. Donc c'est vraiment un état un peu dissocié, partiel d'activation cérébrale. Et ces régions, notamment préfrontales, se réactivent plus dans le rêve lucide.
Alexandra Jacobs va un peu plus loin dans les explications en précisant la différence avec les rêves classiques.
Dans le rêve lucide, il y a plus de cohérence entre les zones frontales et les zones postérieures du cerveau. Ça circule davantage que dans les autres stades de sommeil et dans les stades de rêve où il n'y a pas de rêve lucide. Donc c'est comme s'il y avait un tout petit peu plus de conscience qui permettait non seulement de prendre conscience du rêve, mais aussi de décider des actions. Et donc on est un tout petit peu du phénomène classique de l'éveil qui est présent pendant un rêve. C'est vraiment une question de lien entre des parties du cerveau.
Évidemment, être lucide dans un état de rêve a tout de même ses limites. Mais alors, jusqu'où va cette lucidité ?
En général, dans les rêves lucides, je pense que, de nouveau de manière classique et générale, le rêveur lucide décide des actions qu'il met en place et pas de la situation dans laquelle il se trouve. Maintenant, les actions qu'il met en place vont peut-être le faire changer de situation, mais il ne décide pas de A à Z de construire son rêve en disant « je vais être dans tel décor, il va y avoir un ciel bleu, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Il va pouvoir décider ce qu'il fait dans le rêve.
L'une des particularités de ce phénomène, c'est qu'il existe toute une série d'exercices pour s'entraîner à réaliser un rêve lucide. Parmi tous ces exercices, il y en a trois qui reviennent le plus souvent auprès des experts. Le premier élément, c'est la motivation.
Pour s'entraîner à le faire, je pense qu'il faut avoir une forte volonté, incarner cette volonté à l'intérieur de soi. Par exemple, avant de s'endormir, dire « je souhaite faire un rêve lucide ».
Le deuxième exercice, c'est d'identifier ses états de conscience lors de l'éveil pour pouvoir mieux les reconnaître lorsque nous sommes endormis et que nous rêvons.
Au cours de la journée, se demander régulièrement est-ce qu'effectivement on est conscient de ce qui se passe de là où on est, et par exemple regarder sa main et se dire voilà, est-ce que là je rêve ou est-ce que je suis éveillée.
Et enfin, un troisième exercice consiste à tenir un journal des rêves. Au réveil, noter ses rêves et les émotions qui les accompagnent permettrait de mieux identifier un rêve lorsqu'on le vit.
Reprendre son rêve, un rêve qu'on a fait classiquement, en imagerie mentale en journée, donc en sorte d'hypnose, auto-hypnose, et imaginer qu'on contrôle à ce moment-là son comportement pourrait aider à faire des rêves lucides.
Cet exercice a été utilisé à plusieurs reprises, notamment dans le traitement des cauchemars. Alors, tout le monde peut-il faire des rêves lucides, juste avec un peu d'entraînement ? Ce n'est pas si simple. Selon Mélanie Strauss, il y a des facteurs favorisants liés directement à l'hygiène du sommeil, à des facteurs physiologiques, mais aussi à des facteurs pathologiques.
Ça arrive de façon tout à fait physiologique, plutôt lorsqu'on est jeune, enfant, adulte, jeune. Ça arrive plus souvent, on est plus à même d'avoir des états un petit peu dissociés au niveau du cerveau, comme on fait d'ailleurs plus de parasomnie quand on est jeune. Ça peut être favorisé aussi par un rythme irrégulier, on va faire une sieste l'après-midi, et donc on va arriver dans ce fameux sommeil paradoxal, parce que donc le rêve lucide émerge principalement du sommeil paradoxal, qui est cet état de sommeil où le cerveau est le plus actif. Et donc si on dort et qu'on passe en sommeil paradoxal à un moment, par exemple de la journée qui n'est pas celui habituel de la nuit, il peut y avoir cet éveil qui est un peu plus important et qui peut favoriser l'entrée dans le rêve lucide. Après, il y a d'autres conditions pathologiques, comme par exemple dans la narcolepsie, où il y a justement des dissociations entre l'éveil et le sommeil paradoxal, et là, il va y avoir beaucoup plus de rêves lucides que dans la population générale. Parce que justement, il y a cette réactivation un peu plus importante dans le sommeil au niveau cortical.
Il n'existe pas vraiment d'études qui démontrent un profil particulier de personnes qui seraient plus susceptibles de faire des rêves lucides. Mais Alexandra Jacobs identifie tout de même certaines similitudes chez les rêveurs concernés.
Après, ce qui est sûr, c'est que les gens qui veulent y arriver et qui s'entraînent, ils ont clairement une caractéristique autour de soit de la fascination des phénomènes dits un peu mystiques, parce que le rêve lucide, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un phénomène a priori neurologique, mais il fascine parce qu'il est question de contrôler quelque chose qui est incontrôlable. D'où, en fait, une sous-question qui est de dire, est-il vraiment souhaitable de le faire ? Est-ce que ça a vraiment du sens ? Ou plutôt, quel est le sens de vouloir faire un rêve lucide, outre l'expérience intéressante ? Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler ce qui nous échappe ? Est-ce que ce n'est pas mieux que ça continue à nous échapper ? Bon, c'est des questions ouvertes. Donc, le profil peut être soit des personnes qui aiment être dans le contrôle, qui n'aiment pas, en fait, ne pas être dans le contrôle, soit des personnes curieuses intellectuellement, qui veulent aller voir plus loin, ou faire des expériences de conscience modifiée très très agréables, parce que c'est décrit quand même comme étant très agréable.
Alors rassurez-vous, si vous avez la chance de vivre ou d'avoir vécu un rêve lucide, vous n'êtes pas bizarre et rien n'est anormal chez vous. C'est quelque chose de tout à fait naturel et nul besoin d'être encadré par un professionnel. Vous pouvez voir ça comme une expérience de plus à vivre et aucun danger n'est à souligner. C'est tout pour cet épisode, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me dire si vous êtes concerné par ce phénomène. Peut-être avez-vous testé l'un ou l'autre exercice dont nous avons parlé aujourd'hui. Le prochain épisode concernera une parasomnie. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est à très bientôt.